souterraine, surtout de toute la machine à vapeur qui a permis de pomper l'eau des mines et d'aller plus profond. Mais pour la première fois de son histoire, l'humanité allait avoir moins d'énergie et de moins en moins, et de moins en moins de minerais. Il y a aussi une perte d'efficacité. Il faut investir beaucoup plus d'énergie maintenant qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans pour sortir de la même quantité d'énergie. Et pareil pour les minerais. On a sorti les minerais les plus riches et maintenant on a les minerais les plus pauvres en attendant les pénuries. Alors, où ça se complique, c'est que la croissance de la population a été soutenue par la croissance de l'énergie et des minerais disponibles. Et tout ça va basculer. Et donc, la population mondiale, est-ce qu'elle va basculer aussi? Certains l'annoncent. Tout dépend comment on va réagir, quelle société on pourra construire, ça c'est flou, mais il y aura quand même des dégâts, je crois. Alors, oui, je me souviens bien, il est question d'extractivisme. Alors, c'est facile, il n'y a pas de société industrielle, thermo-industrielle, sans extraction. Bon, depuis le charbon, ben avant, mais c'était marginal, depuis le charbon en Angleterre, 1780, bon, quelque chose comme ça, et on va se polariser sur l'extractivisme à dénoncer, mais on veut garder la société industrielle. Alors, c'est biaiser les choses et pas appeler les choses par leur nom. Voilà, c'est dévier la pensée, et je suis contre cette formulation. L'économie, la science économique, la théorie économique envisage une pénurie, disons, mais pas les pénuries multiples qui vont arriver. Et même René Passet, qui a été cité, dans un texte non daté qui s'appelle « Les thermodynamiques du développement », il dit « Il suffit, quand une ressource vient à manquer, il suffit de lui trouver un substitut. » En temps voulu, prévoir la pénurie, et trouver autre chose. Bon, alors c'est relativement possible pour certains, mais c'est pas possible pour tout. Mais ça signifie qu'il y aura toujours quelque chose pour substituer. Et s'il y a toujours quelque chose pour substituer, ça revient à dire que les ressources naturelles sont inépuisables. Comme en 1828-30, Jean-Baptiste Seine. Voilà.
Vous pouvez faire des interventions un peu plus tôt, parce que j'aime bien qu'on ne s'arrête pas trop compliqué. Il y a quelqu'un par là ? Il y a quelqu'un par là ?
Ah, ce sera pas court.
Oui, j'ai apprécié que Geneviève Azam souligne le problème de la sociodiversité. Donc, comme je suis ethnologue, j'avais l'habitude de dire plutôt ethnodiversité, mais c'est pas grave, parce que c'est la même chose, c'est vraiment souligner qu'il existe plein de peuples différents et que, de même que la biodiversité est en danger, les peuples divers sont en danger. C'est vrai qu'ils sont en danger, mais c'est vrai aussi qu'ils existent. Actuellement, sur Terre, il y a 6900 langues, ça veut dire 6900 peuples, et dans ces 6900 langues ou 6900 peuples, 95% de ces peuples ont des philosophies qui sont très en harmonie avec l'écologie. Ce sont des peuples qui ont l'habitude de dire « nos sœurs les plantes, nos frères les animaux » et qui ont un mode de vie soutenable, c'est-à-dire un mode de vie harmonieux. C'est seulement 5% des langues du monde qui sont concernées par la modernité et le monde industriel. C'est pour ça que je trouve que c'est une erreur de diagnostic de dire, comme on le faisait déjà au 18e, 19e, c'est la faute de l'homme. Comme si l'homme, il n'y avait qu'un seul type d'homme sur Terre. Ça, c'est une forme d'ethnocentrisme. Les Occidentaux, les Européens se prennent pour le nombril du monde et ils croient que l'homme, ben, c'est l'homme européen. Non! Il y a des milliers de peuples différents, il y a des milliers de façons d'être homme. Donc comme ce n'est pas la faute de l'homme, c'est pas l'homme qui est une force géologique, c'est pas l'anthropocène, c'est un homme bien particulier, c'est l'homme moderne, c'est l'homme du monde industriel.
Oui.
Je dirais que c'est plus grave que l'homme occidental, parce que quand on regarde du côté de la Chine c'est en Orient, et la Chine aussi enclenche un mode de vie dangereux pour la biosphère. Donc personnellement, je trouve que ça serait dommage d'applaudir aux mots inventés par un personnage très dangereux qui est le chimiste Crutzen. Crutzen, ce géo-ingénieur qui a des projets délirants pour trouver des solutions aux problèmes climatiques. Ne donnons pas le feu vert à Crutzen qui a inventé en l'an 2000 avec Stürmer le mot anthropocène. Il faudrait, d'ailleurs les géologues eux-mêmes n'ont pas décidé ce mot. Ils ne vont en parler qu'au congrès de Durmor en 2016, et il est très probable qu'ils ne vont pas choisir le mot anthropocène, parce qu'il faut énormément de recul pour choisir une ère géologique. Pour l'ère précédente, Holocène, ils ont réfléchi pendant 30 ou 40 ans. Donc voilà, ne nous précipitons pas, et ne faisons pas de publicité pour le concept imbécile de M. Crutzen, et essayons de faire un diagnostic plus précis, et au lieu d'accuser l'homme, d'accuser le monde industriel, d'accuser l'homme industriel, d'accuser l'homme de la modernité, d'accuser les délires de mégalomanie européens comme les délires mégalomaniaques chinois. Parce que la Chine, c'est
guère mieux. Je pense que Geneviève a compris là, le sens de...
On prend encore deux, trois questions.
Alors, un peu plus courte, s'il vous plaît.
Des questions, surtout.
Des questions ou des réflexions.
Ou des remarques, oui. Ou des remarques, oui.
Oui, quand je dis réflexion, question, c'est vous qui prenez la parole. Vous en faites ce que vous voulez.
Quand tu dis tu ne voudrais pas que les grands pollueurs, les grandes sociétés polluées soient présentes aux négociations, bon, je pourrais savoir ce que tu veux dire, mais rassure-moi sur le fait que. Il ne faudrait pas que ce soit elle qui dirige les débats, mais il faudrait quand même qu'elle soit là pour qu'on puisse les accuser et leur demander qu'est-ce qu'elles ont l'intention de faire. Sinon, elles vont dire, bon, vous ne voulez plus qu'on soit là, donc on continue à faire ce qu'on veut dans le coin. Premier point, autre chose. Bon, rapidement, sur les compensations biodiversité, ça, je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça peut avoir de réaliste, vu que... des espèces qui ont mis des millénaires à apparaître avant, sur une zone, comment on peut en construire ça artificiellement ailleurs? En plus, comme c'est la dernière zone de bocage en France de cette taille, on ne peut pas imaginer qu'il y a la même chose ailleurs en France. Voilà, c'est complètement irréaliste. Et même s'il y avait ça, de garder une zone pour en détruire une autre, pourquoi pas garder les deux? Enfin bon, c'est différent.
Encore une question.
Et une dernière petite chose, pour la bio-ingénierie, il y a deux exemples frappants. Alors j'imagine que c'est pour les raisons évidentes que tu les as pas citées, mais j'ai entendu parler d'arbres artificiels qui capteraient le carbone. Mmh. Et bon, ça consommerait beaucoup de métaux, et pour que ça soit efficace, il faudrait qu'il y en ait beaucoup. Et il y a aussi les captages de carbone qui sont pas techniques ou pas pour l'instant.
Encore une question et Geneviève va répondre,
ouais.
On prendra une deuxième
question. Moi j'ai une toute petite question du coup sur le petit chapitre là concernant l'écologie punitive. Je voulais savoir si ATTAC avait réfléchi et s'il y avait une position commune sur les propositions de taxes carbone et pas forcément la pantalonnade qu'on nous sert en ce moment, mais voilà sur le fait de faire augmenter artificiellement le prix de l'énergie avant qu'elle augmente tout seul.
Bon, attends, oui. Taxe carbone. Bon. Alors, je vais reprendre un peu dans l'ordre, hein, je crois. Je ne peux pas répondre à tout. Hein. Vous m'en êtes... Sinon, je parle une heure. Hein. Sinon, c'est... Alors, juste quand même, je voudrais revenir sur... Pardon. Sur la question de l'extractivisme, moi je trouve c'est intéressant la notion d'extractivisme. Parce que ça parle en plus. Je trouve que c'est assez imagé. Souvent on n'a pas de choses assez imagées. Oui, c'est le capitalisme, d'accord, mais enfin, à force de répéter ce que le capitalisme, c'est le capitalisme, il faut qu'on arrive à trouver des espèces de mots et notions intermédiaires. Sinon, on est dans le slogan, oui, c'est le capitalisme industriel. Mais je trouve quand même que cette notion d'extractivisme, qui n'est pas simplement de l'extraction, parce que je pense que personne ne souhaite garder la nature comme dans un musée. Hein, effectivement, nous avons besoin de la nature pour vivre. Nous consommons de la nature. Bon, il ne s'agit pas de se dire, comme le disent, comme on peut trouver dans certaines théories, que l'homme serait uniquement prédateur, et que, a priori prédateur, et qu'il faudrait assurer la suprématie finalement de la nature sur les humains qui serait une espèce prédatrice. Je pense que, comme il le disait, nous sommes dans des systèmes prédateurs, hein, c'est certain, mais bon. Donc moi, le terme extractivisme ne me choque absolument pas. Et en plus, il parle beaucoup au niveau international, parce que beaucoup de gens au niveau international se réfèrent à ça, parce que ce que nous vivons ici, nous, c'est nouveau. C'est pas nous qui l'avons inventé, l'extractivisme. Mais ça, c'est la situation, ce que nous vivons avec gaz de schiste, etc. Bon. Mais c'est ce que vivent les pays du Sud depuis ce qu'on appelle les pays du Sud depuis le XVIe siècle, depuis la entre guillemets découverte de l'Amérique. C'est eux qui parlent d'extractivisme, parce qu'eux ils l'ont vécu vraiment. On leur a extrait les ressources, et nous avons repris ce terme qui est un terme qui vient du Sud. Et je trouve c'est intéressant, parce que désormais, tellement nous sommes dans des pénuries de ressources, hein, on ne peut plus simplement se contenter d'aller chercher des ressources au Sud. Il faut qu'on extrait aussi dans nos sociétés. Et il y a des résistances qui se mettent en place. Donc je trouve que le terme est assez intéressant. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Il nous vient du Sud d'Amérique latine, le terme d'extractivisme. Donc je pense qu'il est pas mal. Juste un point sur René Passé. Je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit par rapport à ce qu'il dit. On est passé.
C'est dans son texte, hein.
Il a dit qu'il s'y plaît dans une conférence.
Non, il y a autre chose qu'il dit. Ça, quand même, je connais bien René Passé.
Mais j'ai lu L'économie qu'elle vivante aussi. Ouais.
Il est en confrontation totale avec la touche. Hein.
Mais ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas en confrontation là-dessus. Oui, il est en confrontation avec la touche. Parce que René Passé pense que nous bénéficions d'une énergie infinie, qui est l'énergie solaire, et qui permet de recomposer en permanence les pertes que nous faisons d'un côté, qui sont recomposées par rapport à tout ce que nous recevons de l'énergie solaire. L'énergie solaire est infinie pour passer. Alors que pour la touche, enfin bon, pour d'autres qui sont plus dans la décroissance, il y a l'idée qu'aujourd'hui, bien sûr, l'énergie solaire est infinie. Oui, elle est infinie, l'énergie solaire. Mais en revanche, on est dans des phénomènes qu'on appelle de néganthropie, et les processus de destruction sont tels aujourd'hui qu'il n'y a pas le temps de la recomposition que permet l'énergie solaire. Et donc la destruction, si vous voulez, est beaucoup trop rapide par rapport aux possibilités que fournit l'énergie solaire de recomposer tout ce que nous avons détruit. Voilà. C'est en revanche, René Passé s'oppose, mais vraiment violemment dans son livre, à toute la pensée néoclassique qui est fondée sur ce que vous avez dit, la substitution à l'infini des techniques. René Passé démonte complètement cette hypothèse néoclassique. La pensée économique dominante, elle est construite, bon ça je ne l'ai pas développé, elle est construite sur une hypothèse, c'est que la nature est du capital naturel, on appelle ça du capital naturel. Et comme toute forme de capital, c'est un capital qui est infiniment substituable par du capital technique. Et donc, il n'y a aucun problème, effectivement, puisque si nous détruisons ce capital naturel, il pourra être remplacé par du capital technique. L'exemple qu'on me donne généralement, c'est disparition des abeilles. Ben, ce n'est pas un problème, parce que déjà, on est en train d'expérimenter des espèces de petites machines qui effectueraient le travail, entre guillemets, des abeilles. C'est l'exemple typique de substitution du capital naturel par du capital technique. Dans la pensée néoclassique, cette substitution du capital naturel par du capital technique, elle est infinie et illimitée. À partir de là, on n'a aucun problème par rapport au capital naturel. On peut même complètement s'en débarrasser et recréer une seconde nature complètement technique et qui nous permettra de poursuivre. Et ça, René Passé, toute sa théorie est fondée sur le refus de l'hypothèse de substitution infinie. En revanche, ce qu'il dit, donc vous ne pouvez pas dire ça. En revanche, ce qu'il dit, c'est que l'énergie solaire, elle, est infinie. Bon, ça oui, il dit ça, et que ça recompose. Bon, je ne sais pas ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce qu'il est écrit dans l'économique et le vivant. Ce n'est pas du tout la même perspective que Latouche, qui reprend, lui, la loi d'entropie, qui consiste à dire que dans cet échange qu'il y a entre la biosphère et les sociétés humaines, l'énergie qui est consommée, elle est en même temps, elle ne se retrouve pas complètement dans le produit qui a été réalisé. Il y a une perte de qualité de l'énergie. De même, quand on recycle des produits, etc., il y a une perte de qualité. C'est le phénomène d'entropie. Et René Passé dit, oui, il y a entropie, mais il y a aussi négantropie. C'est-à-dire qu'il y a recréation, grâce à l'énergie solaire, des choses qu'on a détruites. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, non, là on va pas.
Ça concerne que les ressources vivantes.
Non, ben, le pétrole aussi.
Le minerai de fer, il n'est pas reconstitué par l'énergie solaire.
Non.
On va raconter n'importe quoi.
Non, je ne peux pas. Sur René Passé, je ne peux pas vous laisser dire des choses. Je voulais juste rectifier ça. Et ensuite, on peut discuter sur son hypothèse. Effectivement, il ne partage pas les théories de la décroissance. Effectivement, il pense qu'il y a un phénomène de recomposition, hein, que l'énergie ne fait pas que se dégrader, qu'elle peut de nouveau se recomposer grâce à l'apport de l'énergie solaire. Moi, je ne le partage pas en plus, ça. Hein. C'est un désaccord que j'ai avec René Passé. Mais on se doit quand même de restituer la pensée de René Passé telle qu'elle est. Il n'est pas un néoclassique qui prétend qu'il y a une croissance infinie possible, parce qu'il y a substitution des techniques. Il a passé sa vie à se battre contre ça. Sa vie à se battre contre la théorie néoclassique. Je crois que là, vraiment, je ne peux pas le laisser dire. Et après, je ne suis pas en accord avec lui sur son histoire de recomposition d'énergie. Je suis beaucoup plus dans la question de la loi d'entropie. Mais ça, c'est autre chose. Mais bon, il a ouvert une voie quand même extraordinaire avec cette nécessité de penser l'économie comme un sous-système de la biosphère. Et ça, je peux vous dire qu'il était seul à l'économie et que c'était révolutionnaire. Et qu'il est resté d'ailleurs assez seul. Voilà, et que les néoclassiques, alors là, ça, ils ne veulent surtout pas entendre parler. L'économie, c'est le système qui recouvre le tout. C'est pas le sous-système de. Et tous les néoclassiques aujourd'hui, ils sont dans l'économie verte, c'est-à-dire comment faire pour faire entrer la Terre dans les circuits économiques, la biosphère dans le circuit économique. C'est le schéma inverse à René Passé. Après, on peut avoir des désaccords avec René Passé, j'en ai. Mais pas au prix de tordre sa pensée. Bon, je crois quand même que c'est. Enfin, moi, je le respecte assez pour pas. Non, c'est pas un néoclassique. Il s'est battu contre.
Mais c'est ce que j'ai lu dans.
Non, mais Roger, on va laisser Geneviève continuer à répondre
ensuite,
aux questions.
Je reviens. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on a discuté sur l'Anthropocène. Alors, on peut en discuter, peu importe. Mais quand aujourd'hui des gens comme Christophe Bonneuil, etc., reprennent l'idée de l'anthropocène, ça ne concerne pas l'homme avec un grand H. D'ailleurs, moi, je puis vous assurer que des gens comme Bonneuil et d'autres ne parlent jamais d'homme avec un grand H, comme nous ne parlons pas des femmes avec un grand F. La femme, il y a des femmes. Et la nécessité d'avoir un discours politique, c'est de dire des femmes et des hommes. Parce que l'homme ou la femme, c'est l'essentialisation d'un ou de l'autre, et c'est le discours typiquement apolitique et asocial. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'homme, et ce n'est pas non plus l'homo sapiens ou l'homo. L'anthropocène, même ce que dit Crutzen, ça démarrerait... à la fin du XVIIIe siècle. Quand on regarde ce qu'est la fin du XVIIIe siècle, c'est la civilisation industrielle, c'est le passage des énergies froides aux énergies chaudes, des énergies renouvelables, l'air, enfin le vent, l'eau, les petits barrages, etc., aux énergies fossiles, au charbon, c'est typiquement la civilisation industrielle, thermo-industrielle, comme ça a été dit. Donc c'est pas l'homme en général, c'est bien un type de civilisation qui fait que, à un moment donné, alors que jusque-là les histoires de la Terre et des sociétés étaient plutôt parallèles, l'histoire au long cours de la Terre, 4 milliards d'années, et l'histoire beaucoup plus récente des sociétés, 100 000, 200 000 ans, 300 000 ans, selon ce qu'on prend, donc des histoires plutôt parallèles, une espèce d'indifférence de l'histoire naturelle de la Terre par rapport à l'histoire des sociétés, des vies parallèles. Et là, tout à coup, avec le changement climatique, ou bien l'extinction de la biodiversité, on se rend compte que il y a un croisement, c'est-à-dire que désormais, l'histoire humaine, depuis la fin du XVIIIe siècle, société industrielle, capitaliste, occidentale, etc., nous faisons le climat, nous agissons globalement sur l'histoire de la Terre, et on a un croisement. Et là où c'est intéressant quand même, après on peut discuter, mais là où c'est intéressant, et là je peux dire que pour les économistes c'est très intéressant, c'est que les sciences sociales se sont construites au XVIIIe siècle, XIXe, dans l'ignorance totale des sciences naturelles. Ignorance totale. Et que, justement, toutes les pensées de l'Anthropocène aujourd'hui nous disent que nous devons, de nouveau, pour comprendre le monde, recroiser les sciences sociales, les sciences politiques et les sciences naturelles, et non plus nous vivre comme si nous étions sur des choses complètement parallèles qui n'auraient absolument rien à voir. Et ça, très honnêtement, si nous avions ça, nous ne pourrions plus penser l'économie comme un système complètement autonome par rapport à la biosphère, autoréférentielle, avec une croissance infinie, et ça, c'est important. Bon, alors après, on peut discuter. Bon, moi, je ne suis pas une fanatique de l'Anthropocène, mais c'est quand même daté, c'est pas l'homme. De toute façon, dès qu'on dit l'homme ou la femme, il faut se méfier quand même, dans cette pensée totale et totalisante. Alors, sur les négociations internationales, bon, malgré tout, l'ONU, bon, nous avons des discussions à date là-dessus, tout le monde, il y a des sensibilités différentes, on peut le voir d'une façon, plusieurs façons. Les Nations Unies, aujourd'hui, devraient être peuple de la Terre, devraient être une institution politique internationale, chargé quand même d'émettre un certain droit international qui s'applique à l'ensemble des sociétés. Dans la mesure où il s'agit d'une instance politique au sens noble du terme, c'est-à-dire comment faire pour vivre ensemble ces 192 parties du monde, c'est une instance politique. Bon, alors on peut discuter, mais les forces économiques n'ont rien à faire, rien dans ce type de négociation. Elles n'ont rien à faire dans les négociations de l'État. Aujourd'hui, si par exemple on doit prendre cette décision politique, mais on est pollué parce que depuis une quarantaine d'années, on a pris l'habitude que ce soit les grands lobbies finalement qui écrivent les lois. Dans le cas de l'Union européenne, c'est une véritable caricature. Donc par exemple, le traité Union européenne-États-Unis d'Amérique, il est discuté depuis plusieurs années entre grands lobbies industriels et financiers des États-Unis et de l'Europe, pas que des États-Unis et de l'Europe. Les plus grands lobbies sont là, et ce sont quasiment eux qui tiennent la plume de la Commission européenne. Bon, dans la mesure où ça va engager la vie, l'intérêt général, la vie des peuples, la vie des sociétés, etc., c'est pas à des lobbies privés de se prononcer sur l'intérêt général. Ou alors ça veut dire qu'il n'y a plus de politique. Alors après, quand on les rencontre, etc., pour voir comment on met en œuvre des décisions politiques, oui, bien sûr, ce sont des acteurs. Mais ce ne sont pas des acteurs politiques, donc on les laisse là où ils sont. Et ce sont des moyens, c'est des acteurs importants, les forces économiques. On a besoin des forces économiques, mais ce sont des acteurs économiques, point. Comme disait Keynes, mais c'est vrai pour les il parlait des économistes. Ça, j'aime bien cette phrase de Keynes. Il disait, les économistes, ils devraient être comme les dentistes. C'est-à-dire de purs techniciens à qui, on prend des décisions politiques et après, on demande aux économistes de mettre tout ça en musique, très bien. Mais ce n'est pas eux qui décident d'eux. Ils peuvent indiquer comment il faut conduire le bateau, mais ils ne peuvent pas décider la direction du bateau. C'est où on va, ça, c'est les peuples. C'est le politique. Après, une fois qu'on a décidé où on va, sur comment on va, comment on conduit le bateau, etc., évidemment qu'on a besoin des scientifiques, des politiques, des économistes, des sociologues, tout ce qu'on veut, bien sûr, et surtout de la vie des peuples aussi. Mais la grande question, c'est où va-t-on ? ça, c'est la décision politique. Et ça ne peut être que l'émanation des débats politiques démocratiques. Bon, voilà pourquoi elles ne peuvent pas être à la table de négociation, et elles y sont aujourd'hui. Pas parce qu'on est a priori. C'est pas, comment vous dire, pourquoi on demanderait à une entreprise privée de représenter l'intérêt général? L'entreprise privée, c'est pas son rôle de représenter l'intérêt général. Bon. Alors, l'histoire de la compensation, juste, j'ai repensé à quelque chose par rapport à votre question. Quand je disais tout à l'heure que l'économie verte, c'est faire entrer la nature dans l'économie, c'est en particulier considérer que le temps de la nature, c'est le temps de l'économie. C'est la question du temps. Quand vous dites que c'est impossible de compenser parce qu'il a fallu des milliers d'années pour que se construisent ces écosystèmes, et vous avez éminemment raison, ça c'est le temps de la nature. Mais il y a le temps de l'économie, qui est le juste à temps, qui est le temps court. Et là, il y a une confrontation vraiment entre le temps de l'économie et le temps de la nature. Et aujourd'hui, il s'agit de faire rentrer le temps de la nature dans le temps de l'économie, dans le court terme, dans le juste à temps même. C'est vraiment ça. Quand on dit faire rentrer les... De même qu'aujourd'hui, peut-être ça peut aussi vous éclairer, on parle de la nature, non seulement il y a les métaux, etc., etc., mais il y a plus que ça. Ce qui intéresse aujourd'hui les financiers, surtout, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. La nature, elle produit des services. C'est une entreprise géante. Elle produit des services écosystémiques. Elle capte le carbone. Les océans, les forêts captent le carbone. C'est un service qu'elle nous rend, gratuit, abondant. Elle filtre l'eau, par exemple. Elle purifie l'eau de la nature. Elle retraite des déchets. Donc la nature est considérée, par les néoclassiques, la pensée économique dominante et ce qu'on appelle l'économie de l'environnement. C'est du capital naturel, c'est une entreprise extraordinaire, la nature. Mais le problème, c'est qu'elle produit ces choses gratuitement. Or, dans l'idéologie libérale et néolibérale, tout ce qui est gratuit est mal géré. Parce que nous sommes des homo economicus prédateurs qui ne pensons qu'à notre intérêt. Et donc, dès lors que c'est gratuit, chacun va essayer de s'accaparer au maximum la ressource. Et donc, on va finir par la détruire. C'est la fameuse tragédie des communs. C'est-à-dire que quelque chose qui est en commun, quelque chose qui est gratuit, comme on est des prédateurs en puissance, pas du tout altruistes et pas du tout sensibles à l'intérêt collectif, eh bien, le commun en question, il est détruit par souci d'accaparement personnel. On a exactement la même chose. Donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est ce qui m'a fait penser, si vous voulez, c'est l'idée des services écosystémiques. Donc on va lutter contre la gratuité parce que c'est gratuit que c'est détruit, et donc on va mettre un prix. C'était le sens de notre livre, La nature n'a pas de prix, sur le prix des services écosystémiques. Par exemple, une forêt primaire, qui est le plus souvent collective, elle est aujourd'hui évaluée en tonnes de carbone qu'elle est capable de capter. Et au prix de la tonne de carbone sur le marché du carbone européen, qui est le marché international du carbone aujourd'hui. Et donc une forêt tend à être réduite à une fonction, capter le carbone. Et bien souvent, donc, on oublie justement que la forêt, c'est pas simplement des arbres qui captent du carbone. C'est tout un écosystème et un sociosystème. Il y a des personnes qui vivent de la forêt, des peuples qui vivent de la forêt, qui l'entretiennent en même temps qu'ils y vivent. Il y a des cultures de la forêt, véritablement, des cultures autour de l'arbre. Et que l'arbre n'est pas... C'est quelque chose de symbolique aussi, l'arbre. Je vous invite à lire les bouquins de Francis Allais, qui sont extraordinaires, sur l'arbre, justement, ce que ça peut représenter dans notre culture, notre élévation, y compris spirituelle. La culture de l'arbre, c'est pas rien. Eh bien non, l'arbre, c'est un capteur de carbone, point. Et sa valeur est estimée en fonction des tonnes de carbone qu'il peut... Bon. De même, aujourd'hui, il y a un accaparement de terres en Afrique qui est lié, bon, bien sûr, à produire des biens pour manger, mais aussi c'est lié à ça. Parce que la terre aussi, si vous plantez tout un tas de plantes, elle va capter du carbone. Et donc vous allez pouvoir gagner des crédits carbone avec la terre. Ou bien vous parliez de la captation du carbone. il va falloir le carbone qu'on capte, il faut le séquestrer après. Et où on le séquestre? On va le séquestrer sous terre. Et d'où l'idée de... Il y a beaucoup de firmes aujourd'hui qui achètent des terres, pas pour cultiver, dans la perspective de les faire fructifier par les biais des mécanismes carbone ou des crédits biodiversité, pour la compensation. Voilà. Ça, c'est pour noircir un peu le tableau. Alors, l'écologie punitive, je me souviens plus ce que vous m'avez dit. Ah oui, la taxe carbone.
Ouais. Mais de manière générale, justement, tous ces mécanismes de marché, moi, on les dépend vraiment comme pour noircir le tableau. Et en même temps, je m'interroge sur la... est-ce que c'est pas nécessaire, à certains moments, c'est ce qu'a fait le rapport Stern, par exemple, de chiffrer un certain nombre de trucs, de dire pour l'instant, ça, c'est pas pris en compte. De toute façon, notre économie va se casser la gueule si on ne prend pas en compte ces services qui nous sont rendus gratuitement. C'est pas que débile, je trouve, c'est aussi s'approprier un vocabulaire pour être capable de dialoguer avec des gens qui actuellement conduisent le bateau, qu'on soit content ou pas. C'est autre chose, mais ça permet de...
Alors, l'idée... Il y a deux choses dans ce que vous dites. Hein. Je ne sais pas si je pourrais répondre comme vous le souhaitez, hein, mais... L'idée... Oui, oui. Bon, je réponds d'abord à la taxe carbone, après je parlerai du chiffre. Bon, d'abord pour attaque, la fiscalité, hein, tout ce qui est du domaine d'une fiscalité écologique, c'est pas une punition. Ça, je pense que c'est extrêmement important. La fiscalité est un outil politique. Un des outils politiques que nous avons, et c'est pas une punition. C'est parce que nous défendons, en gros, hein, les services publics, nous défendons la sécurité sociale, nous défendons l'enseignement public, hein, et nous savons que nous ne pouvons pas le financer avec l'opération du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin, véritablement, de prélèvements. Ça s'appelle la fiscalité, des prélèvements fiscaux, des prélèvements sociaux. Et que si nous voulons assurer ces services, nous avons besoin de ces prélèvements. Et que dans une société qui tend à se déliter, ces services sont d'autant plus importants et que du coup, effectivement, la punition pour nous, c'est la suppression de ces services-là. Ça, c'est une vraie punition sociale. Et qui touche les personnes les plus en difficulté. Donc la punition, c'est la suppression de tout ce que peut permettre de financer l'impôt et les cotisations sociales. Alors je ne dis pas que toujours l'impôt est bien utilisé, et que bon, ça c'est encore un autre débat pour lequel nous devons nous battre, hein, pour quelle utilisation de l'argent public. Alors, ça c'est sûr. Mais le principe même de l'impôt pour nous n'est pas une punition. Alors ensuite il y a le problème de la taxe. Il y a deux types d'impôts, vous le savez, les impôts directs et les impôts indirects. Évidemment que nous pensons à TAC, nous avons réfléchi à la question soit sur la fiscalité écologique, nous sommes favorables à une fiscalité écologique. Nous sommes favorables. Une fiscalité qui doit être pas seulement incitative, mais qui doit être redistributive aussi. En effet, pour qu'une taxe soit acceptée, admise, et nous le voyons aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Bretagne, l'écotaxe ou la pollutaxe, comme l'appellent les gens de BC Alternative, hein, qui la défendent, sur le principe, elle est nécessaire. En revanche, la façon dont elle a été ramenée, la façon dont elle est collectée, je n'en parle même pas, hein, la façon dont elle est collectée, là on voit la perte de l'État, hein, confier la collecte de l'impôt à une entreprise privée, il y a de quoi devenir fou. Si on disait ça à des personnes qui vivaient il y a 50 ans, mais c'est du délire absolu. Bon, donc je ne reviens pas là-dessus. En revanche, le principe donc d'une taxe carbone, rappelons-le comme on veut, une taxe carbone, oui, nous sommes favorables. La question c'est comment? Parce que nous sommes favorables pourquoi? Pour deux raisons. Un, je partage avec vous, nous partageons, je crois, avec vous, l'idée que il y a un moment donné où il faut faire payer les pollueurs. Et donc, il faut qu'il y ait un prix. C'est ça que vous voulez dire. Pour que les entreprises soient incitées vraiment à diminuer la pollution, à ne pas balancer des choses dans les rivières, des choses comme ça, on sait qu'il faut les prendre au portefeuille. D'accord, donc il faut un prix. La question est Comment ce prix est-il calculé? Comment est-il déterminé? La réponse aujourd'hui, la meilleure façon de calculer le prix, c'est le marché. Et donc, laissons faire le marché. Là, sur le marché, on aura le prix juste. Parce que le marché est neutre. On n'aura pas d'idéologie, pas de... Le marché est neutre. Là, il y aura le prix juste. Aujourd'hui, le prix juste du carbone, c'est 5 euros la tonne sur le marché du carbone. Ça, c'est le prix juste. Et là, c'est pas de l'idéologie. Vous regardez hein, sur toute l'évolution du prix du carbone, il est à 5 euros. C'est le prix juste. Il y a une autre façon de dire que nous avons besoin effectivement d'un principe pollueur-payeur. Il est normal de mettre un prix sur ces pollutions là. Mais ce prix peut très bien être un prix social, un prix politique. Je vous donne un exemple qui n'est pas tout à fait juste, mais bon, qui peut faire comprendre. Quand, dans mon travail, je me fais mal à un bras, je vais avoir une indemnité, une espèce de pension d'invalidité ou quelque chose comme ça, si vraiment j'ai perdu. Cette pension, ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire que c'est le prix de mon bras. C'est une somme forfaitaire, discutée, discutable, comme toutes les choses de la vie en société, hein, qui c'est pas dicté par une loi qui nous vient de l'étranger ou des forces naturelles. Donc c'est discuté, c'est discutable, c'est une convention sociale qui à un moment donné fait que je perds mon bras, je suis invalide et on va me dire, bon mais voilà, on va calculer, c'est pas le prix de mon bras, c'est pas le marché qui décide non plus en vendant les bras. Bon. C'est ça. Et donc, le fait qu'on dise qu'il faut un prix ne signifie pas marché. Aujourd'hui, quand vous mettez un timbre sur une enveloppe, c'est encore, vous payez. Il y a le prix du timbre. Mais ce prix, pour l'instant, encore, qui est le même sur le territoire national, n'est pas un prix de marché. C'est un prix forfaitaire. Et que votre lettre, elle aille dans la maison d'à côté de chez vous, ou bien qu'elle parcourt toute la France, c'est le même prix pour le timbre pour l'instant, jusqu'ici. Donc ce n'est pas un prix de marché. Si c'était un prix de marché, ça ce serait fonction du kilométrage, de... Bon. Donc on peut trouver des systèmes, comment dire, des conventions politiques, des conventions sociales, des ententes politiques, ça s'appelle de la négociation politique, qu'à un moment donné, dit, mais voilà, la tonne de carbone s'étend. Et la taxe carbone, c'est ça, c'est la tonne de carbone s'étend. Quel est le bon prix pour la tonne de carbone pour que véritablement elle ait une vertu incitative pour les entreprises? Que les entreprises se disent, oulala, ça y est maintenant, c'est vraiment trop cher, là il faut que je fasse des investissements nécessaires pour moins polluer. Ça c'est un prix aussi. Donc je ne dis pas que nous sommes contre toute évaluation monétaire, mais cette évaluation monétaire... En tout cas, il y a échec du marché pour cette évaluation monétaire. Ce n'est pas au marché à calculer le prix de la tonne de carbone. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, taxe carbone, ça veut dire on fixe le prix de la tonne de carbone. À ATTAC, nous allons y travailler. Nous ne l'avons pas assez travaillé. Nous avons émis aussi l'idée d'une taxe au kilomètre, qui est un peu le principe de l'écotaxe, en fait, hein, mais qui était beaucoup plus large de ce que nous avions envisagé. Dans l'idée que pour la transition... Nous devons relocaliser les activités, aussi bien pour l'emploi que pour les transports, recréer un tissu économique local, etc., etc. On doit relocaliser ce qui est relocalisable, bien sûr. Et du coup, pour inciter à la relocalisation, l'idée, ce serait de mettre une taxe au kilomètre sur les produits. Plus les produits, c'est le fameux yaourt... le fameux yaourt à la fraise, ou les calculs qui ont été faits par un institut allemand de la Ruhr. C'est un institut d'économistes hein, qui ont calculé, mais il y a déjà 20 ans ou 30 ans, ils viennent de le recalculer. Le nombre de kilomètres que parcourt un yaourt, alors il y a le yaourt nature et le yaourt à la fraise, c'est plus grave encore pour le yaourt à la fraise, le yaourt avant d'être dans votre assiette. Bon, alors ça dépend, c'est entre 6000 et 8000 kilomètres. Alors que là, c'est pas vrai pour tous les produits. On est devant une technologie la plus simple possible, Le yaourt, il peut être fait chez soi, ou il peut être fait, ce que je comprends, on n'a pas envie de le faire chez soi, il peut être fait dans des usines qu'il devrait y avoir autour de chaque ville pour assurer la sécurité, la souveraineté alimentaire d'une région. C'est vraiment, là on est dans la technologie la plus simple. Il y a des choses qu'on ne pourra pas relocaliser, qui demandent une échelle trop importante pour être relocalisée. Mais là on est vraiment dans le relocalisable. Bon. Et bien là, taxe kilométrique, vous consommez, ça veut dire qu'il puisse y avoir le choix. Mais si vous choisissez de consommer un yaourt qui a fait 6000 km, bien, il va coûter plus cher, beaucoup plus cher que le yaourt qui a fait 20 km avant d'arriver dans votre assiette. Pour incitation donc à la relocalisation, au choix des circuits courts, etc. Donc là, on va y travailler. On s'est engagé à y travailler, à cette idée de taxe au kilomètre, qui était dans l'écotaxe. Hein ? Alors, mal fait, bien évidemment. Mais, outre la fonction d'incitation par le prix, parce que là, on est dans l'idée qu'il faut mettre un prix pour inciter. Le prix n'étant pas fixé par le marché pour nous, hein, mais un prix pour inciter. Mais ça, c'est toute la théorie économique, si vous voulez, du prix qui finalement guide les comportements, ce qui n'est pas faux. Donc on doit l'utiliser, ce levier. Nous en sommes d'accord. Hein. Mais la fiscalité, elle doit être aussi redistributive. Pas seulement incitative. Aussi redistributive. Parce que si on n'est pas dans un schéma de fiscalité redistributive, et on le voit aujourd'hui, les suppléments d'impôts deviennent insupportables. Totalement, socialement insupportables. Et donc antidémocratiques. Et pour une autre raison, c'est que nous avons besoin vraiment de financements publics pour la transition écologique. Des financements publics énormes. Parce que bien sûr, la transition, on peut la faire localement, on pourra en reparler, hein, à partir d'initiatives locales, à partir de regroupements d'initiatives locales. Mais on a besoin d'infrastructures aussi. Parce que tant que on n'aura pas des systèmes de transport véritablement économes en énergie, tout ce qu'on veut, hein, véritablement des systèmes énergétiques aussi décentralisés, bon, on n'aura pas vraiment de transition écologique. Et pour ça, on a besoin d'investissements publics massifs. Massifs. Aujourd'hui, mettre aux normes les bâtiments, les logements sociaux, par exemple, c'est là qu'on devrait commencer. Mettre aux normes écologiques les logements sociaux. Hein, il y a 5 millions de personnes en France qui sont en précarité énergétique. 5 millions. C'est énorme. Hein. Donc, la taxe, ces taxes-là devraient servir aussi à financer la réhabilitation énergétique en commençant par ceux qui en ont le plus besoin, les logements sociaux, tous ceux qui sont vraiment en précarité énergétique. Hein, la lutte contre la précarité énergétique, c'est justement ces zones frontières entre l'écologique et le social. C'est bien sûr du social, mais on ne peut pas le résoudre uniquement avec du social, sans repenser tout le système énergétique. Parce que si on ne repense pas le système énergétique, hein, c'est le problème du puits sans fond. C'est-à-dire qu'on aura toujours de plus en plus de la précarité énergétique parce que le prix d'énergie va augmenter.
Donc, bien, on va peut-être reprendre encore...
Oui, on prend deux, trois questions.
Deux, trois questions parce qu'il faut quand même...
Et puis après, on rentrera.
Question ou...
Oui, enfin, intervention. Je retire le mot question, je dis intervention.
D'empreinte écologique.
Oui.
Donc, empreinte écologique, qui est très différente selon les régions, mais enfin, ceux qui sont pauvres souhaiteraient consommer plus. Donc, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il faut multiplier cette empreinte qui représente les prélèvements sur la nature, enfin, qui essaye de mesurer. Par la population, par le nombre de gens. Donc comment se fait-il qu'on n'aborde jamais ce point, c'est-à-dire la nécessité inéluctable de stabiliser la population mondiale et pourquoi l'ONU, dont ça serait le rôle profond de proposer des règles de fonctionnement au niveau mondial, ne se charge pas de promouvoir cette idée. C'est peut-être pas facile, c'est un tabou.
Oui, bonjour.
Il est quelle heure, là ?
J'ai entendu parler des initiatives citoyennes européennes. Je me demandais si vous connaissiez ce truc, si c'était un peu du pipeau ou si ça avait des chances de marcher. Initiatives citoyennes européennes, c'est des pétitions où 1 million de
personnes... Oui, c'est les
ICE. Et l'une d'entre elles, ça s'appelle... c'est le sujet de la création de la notion d'écocide.
Mmh. On prend encore une question et après on laisse Geneviève. Je sais qu'il y aura des fossés, mais enfin une ou deux questions, c'est les personnes.
Je viens d'arriver toute glacée, toute gelée, toute trempée de la place de la République, et j'ai la joie de vous annoncer un grand bonheur militant. C'est que les 300 familles qui campaient, qui ont dormi depuis un mois, vous voyez le temps qu'il a fait ces derniers jours, mais tout le monde va être logé. Voilà, une victoire du droit au logement. Merci pour eux. Je me suis contentée de participer au bisou et au bravo, et j'ai tout de suite voulu le dire, parce que ATTAC est un des...
Encore une question et puis
bonjour. Non, c'est pas du tout pour une question, c'est plus pour une intervention. Vous avez parlé d'énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que je pense que tous ici on a conscience. Malheureusement, moi je suis très jeune, j'ai 23 ans. Quand je parle autour de moi de certains aspects d'ingérence des lobbies, de la perte de la souveraineté du citoyen que l'on est, etc., ils n'en ont plus du tout conscience. Et
ici, on est là aussi.
Oui, on est là dans la pièce, effectivement, mais malheureusement, autour de nous, quand on peut regarder ce que proposent les programmes télévisés aux heures d'écoute et de pointe, quand on peut voir quand on peut voir ce qu'on fait au nom de la mondialisation, au nom de toujours plus, par rapport au temps rouge, par exemple, ce que peut faire l'Europe également par rapport à... peut faire par rapport au quota de pêche, on n'en parle pas, ça, c'est relié à l'écologie. Hein, et malheureusement, tout ce qui est. Quand on parle de transition écologique, j'aimerais bien que on parle plus de. Récupérer récupérer la. Notre pouvoir de citoyen, enfin notre droit de décider de ce qu'on veut réellement et de savoir où est-ce que ça va nous mener concrètement. Actuellement, j'ai regardé un reportage complètement sur le permafrost au niveau de l'Antarctique. C'est malheureux, mais c'est une bombe, mais monumentale. Et 1 degré, 3 degrés de réchauffement climatique, ça va être catastrophique. On le sait tous dans cette pièce ici. À l'extérieur de cette pièce, je ne suis pas certain.
Geneviève, est-ce que tu peux répondre aux interventions et puis en même temps conclure?
Voilà, je vais conclure.
Même s'il n'y aura pas de conclusion.
sur la question démographique, c'est pas seulement pour moi, c'est pas un tabou. Il y a eu des... Il y a une explosion démographique qui aurait pu ne pas être. Ce n'est pas une loi naturelle. Bon. Et qui, indéniablement aujourd'hui, complique considérablement la question écologique et sociale. Bon, je crois que là, on ne va pas... je sais que Staline disait que l'être humain, c'est le capital le plus précieux. Mais... et que ça a handicapé beaucoup de prises de conscience, ce genre de choses, c'est vrai. Bon. Après, là où je ne peux pas vous suivre, c'est que faire de la population une question politique, là, on est devant des problèmes absolument monumentaux. Qui va décider du niveau idéal de population? Parce que j'aurais tendance à dire, je sais ce qu'il y a dessous. Aujourd'hui, dans beaucoup de... C'est en train de sortir, ce truc-là. Hein. En fait, c'est les pays du Sud qui sont... Ils sont trop... Voilà, ils sont trop peuplés. En fait, si on prend la densité de population au kilomètre carré, pour lequel l'empreinte écologique est extrêmement importante, la surpopulation, elle n'est pas obligatoirement là où on pense. Voilà. Alors là, déjà, il y en a pas mal qui sont calmés quand on commence à le poser comme ça. Hein, de tous ceux qui veulent réglementer la population, déjà, les choses sont dites autrement. Hein, on a des pays... Alors la France, on a quand même une densité très forte. Et des pays comme la Hollande, comme c'est une aberration totale. L'Afrique, à côté, ils sont sous-peuplés. C'est sous-peuplé par rapport à la densité par kilomètre carré. Donc, qui va décider de la population idéale, de la densité idéale, de la répartition des enfants par mois? Là, vous imaginez un peu dans quoi nous sommes. Et les pays, tous, les pays, j'en connais pas un pays, ayant tenté des politiques démographiques très volontaristes, c'est des catastrophes.
La Chine, quand même.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, la Chine. Avec une surpopulation féminine, masculine énorme, un déséquilibre de population, mais qui leur pose vraiment problème aujourd'hui. Qui leur pose problème. Donc, alors j'ai vu, j'arrive pas à me souvenir, dans le monde d'aujourd'hui, il y a quelque chose, une des conséquences justement de ce déséquilibre entre les garçons et les filles en Chine, et maintenant les jeunes hommes et les jeunes femmes, je sais plus, il y a un article dans le monde aujourd'hui là-dessus, j'arrive plus à faire le lien, mais c'est catastrophique sur le plan social. L'Inde, les stérilisations forcées qu'il y a eu, c'est absolument abominable. Donc, si vous voulez, c'est une question qui est centrale, je le crois, hein. Mais dire qu'il faut une régulation politique de la population, là, j'avoue que ça me fait peur. J'avoue que ça me fait peur. En revanche, peut-être que nous, dans nos pays développés, riches, on peut se battre quand on voit poindre des politiques natalistes. Là, oui. On peut dire, ça suffit, les politiques natalistes. Bon, ça, oui. Et là, nous avons toute une partie de l'Église, de la droite, etc., hein, de la gauche aussi, hein, qui restent très pro-natalistes. Donc, on peut déjà au moins arrêter les politiques natalistes dans les pays développés où elles ont lieu. Mais comment ?
Oui, d'accord.
Voilà. Donc déjà, mais après dire, nous on peut arrêter les politiques natalistes, nous pouvons le décider démocratiquement. Aller dire qu'il faut que tel pays, là vraiment ils sont trop nombreux, il faut qu'ils arrêtent, qui le dit, où, en fonction de qui, bon. Non.
Plus on attend, plus ça sera difficile.
Pas sûr, malheureusement pas sûr, je veux dire pourquoi. C'est qu'il risque d'y avoir une régulation terrible de la population. Mais bien sûr. Mais je ne sais pas si vous avez des réponses aux questions que je vous pose. Pour moi, la réponse, parce que je suis une citoyenne française, moi, européenne, je me bats ici chez moi. J'estime qu'on doit arrêter les politiques natalistes. Et que si les gens, c'est-à-dire de favoriser les familles nombreuses, etc. Si les gens veulent faire le choix de la famille nombreuse,
on les taxe.
C'est leur choix. Je pense qu'il faut vraiment avoir le souci démocratique, parce qu'il va nous arriver des choses absolument terribles. Bon, donc, voilà. En revanche, on peut supprimer les politiques de soutien aux familles nombreuses. Et si on décide d'avoir une famille nombreuse, c'est comme si on décide d'avoir un 4x4, et ben voilà.
On peut. Mais les Russes, ils sont plus les vieux, donc ils meurent plus tôt. Voilà.
Comment ?
Ça diminue la population.
Quoi donc ?
Si vous ne soignez plus les personnes âgées, ça diminue la population. Ce sont les Russes.
ils ne le font pas pour ça. Ils ne le font pas pour ça, non. C'est vrai que c'est une des conséquences du délabrement de la politique sociale en Russie. Mais c'est, ils ne le font pas pour ça. C'est pour ça qu'on risque bien d'avoir une stabilisation de la population. La population, elle va augmenter normalement, entre guillemets, normalement, jusqu'en 2050. Après, elle va baisser. Mais il n'est pas sûr qu'elle augmente autant que ce qui était prévu en 2050 à cause des problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la planète. Bon, mais je suis d'accord avec vous que c'est un problème.
Le nom dit quand même. Le nom dit, je veux dire...
Non, mais ce qui m'embête, c'est que ceux qui souvent disent ça, ça revient à dire... Moi, j'ai discuté avec beaucoup quand même. Hein. C'est les pays du Sud, c'est eux qui sont en croissance démographique aujourd'hui. Ils sont trop nombreux. Donc quand on commence le discours comme ça, ça y est, pour moi, je ne peux plus discuter. Parce que c'est nous qui sommes trop nombreux par habitant, c'est nous qui consommons, parce que ce n'est pas les pays du Sud qui consomment par habitant les ressources de la planète, c'est nous. Donc regardons les consommations par habitant. Et alors, si on regarde les consommations par habitant, alors c'est l'euthanasie des Américains. Non mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas les populations africaines aujourd'hui, c'est vrai, dont le nombre augmente, c'est pas eux qui ont une forte consommation et pollution par habitant.
Ils aspirent quand même.
Ils aspirent mais ils l'ont pas, c'est nous qui l'avons.
On arrête le dialogue monsieur, et on laisse Geneviève continuer à répondre.
Alors ensuite, sur l'initiative citoyenne européenne concernant l'écocide, oui, attaque signataire. Je ne sais plus. Donc ça nous paraît extrêmement important, y compris la notion d'écocide, pour plusieurs raisons. C'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une déclaration universelle des droits de l'homme, etc., etc., suite au génocide. Et c'était autour de « plus jamais ça ». Et donc un certain nombre de choses qui ont été prises au niveau international, la Convention de Philadelphie, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, etc., etc. Et là, cette idée d'écocide, elle est venue du pays du Sud, qui disent, mais aujourd'hui, nous vivons un écocide. Il y a des peuples, ce que disait tout à l'heure, des peuples entiers qui disparaissent, il y a des langues qui disparaissent, des cultures qui disparaissent. On doit faire reconnaître la notion d'écocide. Et dans l'idée d'écocide, mettre en avant l'écocide, c'est que nous avons besoin d'un sursaut de type 1945, d'un nouveau droit international, d'une reconnaissance de nouveaux droits. Et souvent, ceux qui sont pour la reconnaissance de l'écocide sont en même temps des personnes qui disent que nous devrions aujourd'hui, pour témoigner de la solidarité nouvelle que nous voulons avoir entre les humains et des humains avec la Terre, qu'on devrait envisager les droits de la Terre. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le débat là maintenant, parce que ça pose des questions quand même assez importantes. Donc, l'écocide, oui, mais c'est vraiment pour favoriser un sursaut de conscience, un excédent de conscience qui n'est pas aujourd'hui, je suis bien d'accord, je ne sais plus qui disait, hein, un sursaut de conscience, l'idée d'écocide. Ce n'est pas seulement un génocide, c'est un écocide. Voilà, et puis je vais conclure sur des initiatives citoyennes et sur comment se font les changements. Parce que ce que vous disiez, c'est-à-dire que nous sommes ici au chaud dans cette salle, un petit peu entre nous, à nous réconforter de mots, de partager, je trouve que c'est déjà pas mal. Et c'est déjà extrêmement important. Ça pourrait ne pas exister. Donc déjà, merci que ça existe. Vous voyez ? Déjà, on voit le verre à moitié d'eau, à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai tendance à le voir à moitié plein, toujours. J'essaie de le voir à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est pareil, hein, c'est la même situation. C'est la même lucidité, il n'est qu'à moitié. Et soit je dis, avec ce verre à moitié, est à moitié plein ou à moitié vide. Bon. Nous sommes déjà là, et nous ne sommes pas les seuls. Il y a énormément d'assemblées, partout, en France, dans le monde, qui discutent de ces questions. Nous avons eu Alternativa à Bayonne, où là c'était vraiment une très grande réussite, sans doute pas reproductible à l'identique, etc. Mais ces choses-là, on n'en discutait pas il y a 20 ans. On n'en discutait pas. On disait, l'écologie, c'est une question de riches, ça va, c'est les bobos qui veulent manger bio, ça va. Bon. Donc il y a des choses qui ont... Et pourtant les problèmes étaient identiques. Ils se sont un peu aggravés, mais ils y étaient tous il y a 20-40 ans. Donc, je crois qu'il faut le regarder de ce côté-là. Et je voulais vous dire autre chose. Que je pense, que bien sûr, c'est pas je pense, c'est quand je regarde toutes ces alternatives que nous soutenons, dans lesquelles nous sommes, nous avons trop tendance, souvent, à déprécier des initiatives, des luttes. Bon, c'est bien qu'il y ait, par exemple, la victoire de Budal. Alors, on pourrait répondre, oui, bon, d'accord, c'est 300 là, mais tous les mal logés qu'il y a partout, c'est une goutte d'eau dans un océan d'eau propre, dans un océan d'eau sale, oui, mais c'est une victoire. Et c'est une victoire qui a été possible parce qu'il y a des solidarités parce qu'ils se sont construites, pas aujourd'hui, avec des expériences qui puisent. Et ça, je crois qu'il faut le dire, il faut qu'on arrête de se déprécier aussi. Parce que quand je disais investissement politique de zone nouvelle, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a un souci du concret. Un souci de pouvoir changer les choses là où nous sommes, plutôt que de s'en remettre à des grands principes généraux, universels, abstraits, l'émancipation. D'accord, nous sommes tous pour l'émancipation, contre le capitalisme, bon, très bien. Mais là, maintenant, concrètement, il y a une revalorisation de l'expérience vécue, de la résistance, de accepter d'agir là où on peut changer les choses. Et ça, je pense que dans la société, il y a quelque chose qui fermente là-dessus. Il y a beaucoup d'initiatives partout. Seulement, on a tendance à dire, oh, par rapport aux enjeux extraordinaires, c'est pas grand-chose. Non, c'est beaucoup. Essayons d'imaginer le monde s'il n'y avait pas ces résistances. Où serions-nous aujourd'hui ? Ce serait une catastrophe absolument totale. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas... Il faut qu'on ait des points de basculement, nous allons y travailler, nous y travaillons, des points de basculement beaucoup plus évidents. Mais, moi j'ai tendance à penser que ces basculements, d'abord, vous savez dans l'histoire, hein, les basculements, ils arrivent au moment où on ne les attend pas. C'est imprévu. J'ai parlé tout à l'heure de la Turquie. Je peux vous dire que ce qui s'est passé place Taksim, c'était pas du tout ni prévu, ni attendu, ni rien du tout. Je me souviens aussi de discussions avec la Confédération paysanne quand ils ont pris la décision de démonter le McDo à Millau. Ça a eu des conséquences quand même. Ils ne les ont jamais anticipés, imaginés, rien. Ils ont dit, tiens, si on démontait le McDo. Et ça les faisait marrer aussi. Sauf que ça a été un déclic sur la malbouffe, sur une prise de conscience, sur... Ça suffit pas, mais... Donc, il y a parfois des basculements, moments qu'on n'attend pas, sur des sujets qu'on n'attend pas du tout. Simplement, ils ne sont possibles que s'il y a la petite flamme qui est restée allumée. Si tout est éteint... Bon, et notre rôle, c'est ça, c'est l'éveil, c'est garder la conscience à l'éveil, la capacité de révolte, la capacité à construire du collectif, c'est ça notre rôle. De faire que le jour où il y aura là, eh bien, il y a assez de petites lumières qui puissent véritablement se coaguler et permettre le basculement. C'est pas, on n'est pas dans une situation socialement désespérée, c'est dur. Mais je pense qu'on le sait, ce sera très dur. Il y a des intérêts en jeu énormes. Hein, on n'est pas dans une société pacifiée où ça va être dur. Parce que ce sont des conflits graves, des forces d'aliénation terribles. Mais bon, et c'est un appel qu'on peut lancer. En tout cas, on a plusieurs échéances pour nous, au niveau de nous Français, de nous Européens. Hein. On a plusieurs échéances dans les mois et les années qui viennent. Pour justement mettre en avant toutes ces alternatives. Et bon, j'en dis un mot, bon, là on en reparlera, hein. C'est vrai que nous avons la conférence climat de l'ONU en 2015, ici à Paris. Je ne suis pas certaine que le gouvernement prenne la mesure de ce que ça signifie. C'est une conférence beaucoup plus... Enfin, Varsovie à côté, c'était une conférence intermédiaire, puisque c'est la conférence qui, normalement, doit aboutir à un accord, 2015. C'est la feuille de route depuis 7 ou 8 ans. Accord en 2015, qui sera applicable en 2020. D'ici là, bon. Donc, accord en 2015. Ça veut dire que c'est du niveau de Copenhague. Hein. À Copenhague, c'était une conférence qui devait permettre un accord, et c'est pour ça que... un accord qui était applicable à partir de 2013. Bon, échec. Et donc après, on s'est dit, bon, on reporte 2015 pour un accord en 2020. Donc là, c'est symboliquement, je pense qu'au niveau de l'Europe, au niveau des mouvements internationaux qui tentent de combiner la justice sociale, la justice environnementale, tous les mouvements pour la justice climatique, etc., se donnent rendez-vous à Paris en 2015. Déjà. Mais entre-temps, nous, nous avons justement aussi à utiliser cette perspective-là pour faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire toute l'éducation à l'action, éducation populaire, pour ancrer la question du climat dans nos luttes locales, dans la chair sociale. Parce que pour beaucoup de gens, quand on écoute les histoires sur le climat, c'est des courbes, c'est abstrait, c'est 2 degrés en 2100, bon, bref, non. Il faut qu'on montre comment, quand on parle transition énergétique, on parle climat. Quand on parle Notre-Dame-des-Landes, on parle aussi climat. Quand on parle agriculture, on parle climat. Quand on parle LGV, on parle climat, etc., etc. Et donc, c'est ça que nous avons véritablement à faire. Et en particulier, bon, on est en train de discuter de comment faire pour rendre les choses concrètes, pour faire que ces histoires de climat soient concrètes et non pas un truc d'expert complètement opaque. Non, c'est concret. Et nous envisageons, par exemple, il y a des idées qui circulent, mais que nous voulons partager avec d'autres, mais nous aimerions qu'à Paris, véritablement, se tienne, en même temps que la conférence de l'ONU, une espèce d'immense assemblée internationale de ce qu'on appelle déjà les gens qui subissent le changement climatique. Des gens qui le subissent concrètement. Des Philippins, des gens du Bangladesh, dont les terres sont inondées régulièrement, des Africains qui subissent ce qu'on appelle une assemblée des affectés par le changement climatique. C'est des gens, c'est pas des chiffres, c'est des gens, ce sont des territoires, et ce sont des gens particulièrement fragiles. C'est concret, c'est une écologie vécue, c'est pas l'écologie technicienne abstraite. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et donc là, nous avons un travail énorme pour rendre visibles toutes nos expériences, nos réflexions et tout. Bon, nous avons eu Alternative là. Il y a d'autres expériences de transition, il y a d'autres regroupements de transition. C'est tout ça que nous avons vraiment à amplifier d'ici 2015 et au-delà de 2015. Nous y travaillerons. Ce sera un des sujets de l'université d'été européenne d'attaque.
Des mouvements sociaux d'attaque
et des mouvements sociaux qui se tiendra à Paris donc août 2014 et qui pour nous sera un moment vraiment important pour continuer tous ces liens que nous avons au niveau européen et international pour préparer ces grandes assemblées que nous voulons pour Paris. Il n'y aura pas que le Bourget à Paris en 2015. Nous ne voulons pas qu'il y ait que le Bourget.
Et la journée du premier
Alors la journée du 1er février, qu'est-ce que c'est?
C'est le collectif pour une transition citoyenne. Et effectivement, il y a aussi le 1er février qui est l'une des étapes. Voilà, ben merci Geneviève.
Merci et à vous.